Bonjour à tous, bienvenue dans Homme de Ménage. Bonjour Paul.
Bonjour.
Alors aujourd'hui tu reviens pour nous parler à nouveau d'Erwin Goffman.
C'est ça, on va finir le bouquin.
Ok.
Ensemble.
Donc l'asile.
C'est ça.
Alors, on t'écoute.
Et bah la dernière fois on avait surtout parlé de ce concept d'institution totale et de comment l'institution totale mortifie la personnalité. Parce que, je vais le rappeler, le but de cette étude pour Goffman, c'est de comprendre la construction de la personnalité dans la société. C'est pas que une réflexion et une étude, surtout parce que c'est une étude de terrain, sur l'asile et sur la conception de l'asile. C'est ça permet à Goffman en fait de comprendre la construction du soi d'un point de vue sociologique. Et c'est ça qui est intéressant aussi.
Donc l'asile, c'est juste un prétexte.
Alors c'est un prétexte. Après c'est aussi un terrain qui intéressait Goffman. Okay. Goffman il a dans toute sa carrière, il s'est beaucoup intéressé aux personnes malades, aux personnes handicapées. Dans Stigmate, par exemple, il y a toute une étude des rôles sociaux du handicap. Donc c'est quand même des termes d'études qui l'intéressaient beaucoup. Mm-hmm. Mais l'intérêt sous-jacent, c'est la conception du soi, la construction de la personnalité à travers l'institution, en fait, et à travers le monde social. Et du coup, on avait vu la dernière fois que l'entrée dans l'institution et dans l'asile, il y a un phénomène de mortification où l'institution elle a des rituels pour déposséder la personne, le reclus, de sa personnalité à l'extérieur de l'asile. Et en fait, aujourd'hui, on va parler comment l'asile, l'institution, le personnel et le malade en coopération avec le personnel, en fait, vont faire avenir une nouvelle personnalité à travers différents rituels et à travers notamment le travail dans l'asile.
Tu nous avais parlé aussi de l'uniforme et de la coupe de cheveux.
Ça, c'est tout le phénomène de mortification où on dépossède vraiment la personne de tous les biens qui ont pu lui donner une identité propre à l'extérieur de l'asile. Bijoux, vêtements, une barbe spécifique. Du coup, on a plus de barbe. Une coupe de cheveux, toute chose qui peut être forme de distinction. Du coup, on remet un peu l'individu à zéro à travers le processus de mortification. Et il y a ce que Goffman appelle la réinterprétation à travers le diagnostic, où en fait on va reconstruire une personnalité du malade avec pour prisme principal le diagnostic. Et on va construire cette personnalité associée avec le but apparent de l'institution, qui est le soin. Le diagnostic, en fait, il va essentiellement changer l'image du patient, mais aussi l'image pour soi. C'est ça qui est intéressant, c'est que le patient va plus se percevoir de la même manière. Le personnel, ils vont vraiment avoir une stratégie pour faire accepter au patient son diagnostic. Et lui faire recomprendre sa propre biographie à travers ce diagnostic. Et donc, cette acceptation se fait parce que pour pouvoir sortir de l'institution, ce qui est quand même la volonté de la majorité des reclus, il faut être un bon patient. En fait, il y a cette espèce de reconnaissance du personnel. Si on se conforme aux attentes du personnel, si on se laisse faire, si on se laisse faire, on va sortir plus vite en fait.
D'accord.
Et globalement, la majorité des individus dans l'asile veulent sortir.
Donc, il faut se soumettre.
Et du coup, en fait, voilà, il faut se soumettre au diagnostic. Il faut accepter la réécriture du soi pour pouvoir sortir en fait.
Quand tu dis diagnostic, c'était celui-là, on va mettre un nom sur la pathologie.
Ouais, schizophrène, maniaco-dépressif. Hystérique, maintenant c'est plus trop en diagnostic, mais à l'époque ça l'était. Et en fait, vraiment, c'est le patient, le reclus, comme dit Goffman, il cherche plus à se comprendre lui-même à travers son propre système de référence qu'il avait à l'extérieur, mais il va se comprendre, il va s'interpréter à travers ce que le système médical et le personnel lui disent. En fait, tout comportement, il va être analysé et même vécu à travers le diagnostic et à travers l'interprétation médicale, en fait.
Il y a une forme de transformation de soi, quelque part.
C'est ça. En fait, justement, petit spoiler, la conclusion du livre de Goffman, c'est globalement de dire que le soi, c'est une construction sociale. Et qu'en fait, on n'a pas la même personnalité en fonction de l'espace social dans lequel on évolue. On en parlera de manière un peu plus approfondie sur la fin du podcast, où on arrivera sur la conclusion du livre, parce qu'il rentre un peu plus en détail. Mais du coup, vraiment, là, c'est la seconde partie du livre, en fait, c'est une compilation de 4 études. Et les deux premiers, c'est vraiment la carrière pré-internement, l'étape de mortification, donc l'entrée dans l'institution, et après, vraiment, il y a la réinterprétation de la personnalité et la carrière dans l'institution. Et après, Goffman en tire des conclusions sur la construction de la personnalité dans l'espace social, au-delà de l'institution totalitaire. Mais du coup, pour revenir sur la réinterprétation, en fait, il y a tout ce truc où l'individu, il va faire des compromis avec lui-même. Et en fait, il va chercher des autres motifs que celui du personnel pour accepter le soin. Parce que souvent, les personnes vont refuser l'étiquette, en fait. Mais ils vont compromettre avec ça. Ils vont pas refuser frontalement l'étiquette, ils vont l'accepter partiellement. Et en fait, ils vont essayer de se trouver des justifications autres que celles que le personnel leur donne, mais quand même dans l'objectif d'être un bon patient, pour donner une bonne image au personnel. Parce que donner une bonne image au personnel, c'est avoir des faveurs, c'est pouvoir sortir plus vite. Et en fait, c'est vivre moins durement l'enfermement, parce que ça reste un enfermement. Et donc, par exemple, il y a ce phénomène que Goffman décrit, qu'il appelle l'illusion rétrospective, qui permet de justifier l'enfermement. Donc, en fait, le personnel va réécrire la biographie du patient en lui disant que s'il n'était pas enfermé à ce moment-là, et bah, sa situation se serait empirée. Et alors, c'est pas vrai, en fait, on ne peut pas savoir. En fait. Mais c'est une justification typique qui se fait à chaque fois quasiment. Plus aujourd'hui, parce qu'on n'est plus dans les années 60, dans des asiles particulièrement horribles, même si, à mon avis, les hôpitaux psychiatriques sont pas non plus dans des états resplendissants aujourd'hui. C'est pas forcément des stratégies aussi frontales aujourd'hui. Mais en fait, cette illusion rétrospective, elle permet de justifier le rôle du personnel. Donc en fait, le malade, il va adhérer au discours parce qu'il va... Il va vouloir croire que le personnel a de bonnes intentions. Ce qui est... et pas que le personnel, ses proches. Parce que souvent, c'est des personnes qui ont été enfermées aussi à cause de leurs proches. Et ils vont vouloir continuer de croire aux bonnes intentions de leurs proches et du personnel, parce que c'est humain, on a envie que les gens nous veuillent du bien. Et ça va, du coup, permettre d'adhérer au discours et au roman en fait du diagnostic.
Petite question, est-ce qu'il fait un parallèle avec la vie en société en dehors de l'asile? Parce que dans un précédent podcast, quand on avait parlé avec Pierre justement de la démocratie, il me semble, on avait parlé de la présomption de bonne intention du gouvernant. Qu'on vivait dans une époque où dès que tu essayes d'exprimer une contradiction en essayant de dire qu'il y a peut-être un intérêt caché, on t'oppose, mais non, s'ils font ça, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. Et ça rejoint tout à fait ce que tu dis, toi, forcément, dans cet asile, le personnel ne peut avoir que de bonnes intentions. Donc s'il me dit ça, c'est que c'est forcément pour mon bien, même si moi je sens...
Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. Alors, que je sache, Goffman n'a pas fait ce parallèle, d'accord, parce que c'était un sociologue de terrain qui n'avait pas forcément... qui restait sérieux et dans son étude, et du coup qui n'a pas forcément tiré de conclusion qu'il ne pouvait pas prouver.
D'accord.
Et c'était pas... Il ne faisait pas de l'opinion, donc il ne pouvait pas trop... dire ce genre de choses. Mais oui, il y a un parallèle à faire, à mon avis, sur... globalement, il fait un parallèle à l'extérieur, sur la norme, notamment.
Voilà, ok.
Mais il fait pas forcément de parallèle par rapport au gouvernement, en tout cas pas que je sache.
D'accord.
Pas dans mon souvenir. J'ai peut-être raté une note de bas de page.
Comme tout à l'heure, on disait que on pouvait l'extrapoler à l'individu en dehors de la société.
Ouais, alors après, c'est
la question de la présomption de bonne foi et de...
Alors ça, moi, c'est vrai que c'est intéressant. Je pense que ça s'applique, en effet, que on n'a pas envie d'imaginer que les gens nous veulent du mal. Mmh. c'est vachement plus confortable de se dire que les gens, ils font les choses parce que ils ont des raisons morales.
Voilà. Et que ça devient un mécanisme d'explication. Ouais, c'est tout ça. Ce que tu comprends pas, c'est pas grave. De toutes les façons, ça peut pas être pour me faire du mal.
Voilà. Voilà. Là, en tout cas, dans son étude, oui, il montre que la réinterprétation passe par ça. Passe par cette illusion rétrospective où toute la biographie et l'entrée dans l'institution est réécrite par le personnel. Et on accepte cette réécriture parce qu'on n'a pas forcément envie de croire qu'on est arrivé dans un monde de sadiques.
D'accord.
Le personnel, d'ailleurs, il croit. Il va justement aussi jouer son rôle dans le sens où il va systématiquement mettre en doute le discours sur la vie personnelle hors institution des malades. Et en fait, ils vont s'appuyer sur leur dossier, notamment, pour mettre en doute toute la parole du patient. En disant que c'est des exagérations ou que c'est des minimisations. Qu'en fait, il y a un mensonge pathologique. Et en fait, l'histoire des malades va s'associer toujours d'une suspicion médicale. Le malade ne va plus être en capacité de raconter sa propre vie. Parce que le personnel va toujours s'appuyer sur le dossier, qui est généralement pas du tout exhaustif, souvent faux. Il n'y a pas de vision d'ensemble dans un dossier médical. Mais ils vont s'appuyer sur le dossier pour réécrire, enfin pour mettre en suspicion la parole du malade de manière systématique. Ce qui est assez terrible. Et en fait, cette décrédibilisation du malade, ça permet en fait l'adhésion au discours psychiatrique, parce qu'en fait on arrive à faire douter la personne de soi-même. Ou alors si on ne fait pas douter, en fait on rend le malade, ou le reclus d'ailleurs, complètement braqué et en résistance avec l'institution, et ça on va le pathologiser aussi. En fait il y a une pathologisation systématique de toute action du reclus, et ça permet en fait de soit faire adhérer, soit faire... en fait, à la fin, on fait adhérer. Il y a un moment où la personne va adhérer, ou va craquer, en fait.
La phase de diagnostic, elle arrive après la phase de mortification ?
Non, elle arrive avant, généralement.
Avant ?
Enfin, en fait, elle arrive en même temps. Le diagnostic, c'est une partie de la mortification.
D'accord.
C'est le moment où on met une étiquette.
D'accord. En
fait. Et cette étiquette, elle fait partie du processus de mortification et de réécriture. C'est un peu le fil conducteur de l'enfermement, c'est le diagnostic. C'est pour ça d'ailleurs que par exemple il y a certains penseurs anti-psy qui ont pu penser le soin et la santé mentale hors du diagnostic, justement en se disant que c'est un changement de société qu'il faut, c'est pas forcément une pathologisation de la santé mentale. Parce que la pathologisation de la santé mentale, ça amène du diagnostic, et le diagnostic ça peut amener encore plus de souffrance. Alors c'est en débat, c'est pas forcément vrai, c'est des pensées qui sont aussi complexes et que je connais pas forcément sur le bout des doigts, mais je sais que c'est en débat dans certains milieux académiques ou dans certaines institutions de soins qui vont éviter le recours au diagnostic pour se focaliser justement sur l'arrêt de la souffrance, en fait. Parce que mine de rien, il peut y avoir des souffrances.
Oui.
Une souffrance sociale, ce que Goffman montre, c'est que la souffrance... Parce qu'on parlait la dernière fois, la souffrance, elle est généralement liée au fait que la personne sent qu'elle ne correspond plus aux attentes sociales. Et ça crée des souffrances énormes, ça. On peut retrouver un peu la même chose chez les personnes sans-abri, qui vont souffrir du manque de regard, par exemple, qui vont souffrir de à quel point elles sont rentrées dans un rôle dénigré dans la société, quoi. Il y a un psychiatre dont j'ai oublié le nom, qui est un peu spécialiste de la question, qui parle de bétonisation, où en fait les personnes sans abri se fondent au béton et ont l'impression de ne plus du tout appartenir à la société, ne méritent plus du tout un regard, et dans l'institution psychiatrique c'est un peu la même chose. C'est la souffrance, elle vient notamment du regard pathologisant, en fait. et de la non-correspondance entre les actions et les attentes de l'action. Et du coup, cet usage du dossier, pour revenir un peu à notre histoire, il est d'une violence un peu inouïe, et en fait il permet notamment de faire une distinction ultra stéréotypée de deux groupes. L'institution veut systématiquement faire cette distinction entre le personnel soignant et les malades, où il n'y a pas de possibilité de lien intime, il n'y a pas d'identification entre le personnel et le malade, parce que aussi il faut que le personnel y justifie à soi-même ce qu'il fait subir à d'autres personnes. Parce que c'était surtout dans les années 60, aujourd'hui c'est mieux, le personnel c'était des bourreaux, parfois. C'est quand même. Mais le personnel aussi avait cette espèce de croyance dans le but apparent de l'institution. Et du coup, il y a cette distinction stéréotypée a permet en fait d'éliminer toute subversion de l'autorité. Parce qu'on adhère au stéréotype. Le malade, y compris, adhère à son propre stéréotype et devient son propre stéréotype. C'est là que, justement, la réinterprétation de la personnalité apparaît. C'est qu'en fait, on devient ce que le contexte social attend de nous. Et ça passe notamment par de l'exception. Alors ça, c'est assez intéressant, c'est qu'en fait, pour arriver à des situations où il n'y a pas de subversion, où il y a ces stéréotypes et cette distinction entre les deux groupes, il y a une mise en place de cérémonies rituelles exceptionnelles, de carnaval en fait. Goffman, il s'appuie notamment sur les études de Glucksmann sur le carnaval justement, où pendant une journée, généralement c'était autour des fêtes de fin d'année, et le personnel et les malades, ils vont abaisser les rôles, ils vont abaisser les masques, ils vont voire même les inverser. Par exemple, il y a des malades qui vont faire des sketchs sur le personnel soignant. Il y a cette espèce de journée un peu carnavalesque où les règles et la distinction ne se fait plus, où d'un coup il y a un lien un peu plus intime qui se fait pour renforcer cette distinction en fait. Et en fait c'est un peu paradoxal, mais cette cérémonie elle permet de montrer que la distinction entre le groupe elle n'est pas immuable, mais ça en fait ça permet de la renforcer. En fait ça permet de faire un peu cette soupape comme une cocotte minute quoi. En fait qui permet de renverser, ça c'est une expression de Goffman, le drame habituel. En fait ça permet de le renverser réellement, il y a vraiment un renversement réel dans cette inversion des rôles, mais comme c'est une durée extrêmement limitée, tout le monde sait que c'est une durée limitée, ça va permettre ultimement de renforcer les stéréotypes et la distinction entre les groupes et le lien de subordination en fait. Y a un parallèle des techniques de mortification dans la réécriture et dans la réinterprétation. C'est par exemple le dépouillement, dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment un moment charnière où en fait on mortifie mais on réécrit aussi. On ajoute, justement ce que je disais tout à l'heure, il y a l'étiquette qui arrive, où on n'est plus Jean-Paul, laveur de vitres, père de trois enfants, on est Jean-Paul, schizophrène. Et cette réécriture, elle se fait à peu près au même moment, il y a une continuité, Goffman il fait une catégorisation, mais il faut comprendre le mouvement dans sa continuité. En fait, c'est l'abolition de toute distinction qu'il y avait à l'extérieur. C'est l'établissement et c'est le remplacement de cette distinction par une distinction entre malades, notamment entre bons malades et mauvais malades. Et en fait, ça met en place un système de privilèges. Alors là, on va rentrer justement dans la carrière en fait, à l'intérieur de l'institution, où en fait, Goffman il dit que c'est la charpente de la nouvelle personnalité. C'est un système de privilèges très fort, notamment autour des quartiers. Alors, faut imaginer l'asile que Goffman étudie. En fait, il y a des niveaux. À l'étage le plus bas, il n'y a pas de chambre. C'est des grandes salles. Il y a des bancs en bois. Il n'y a rien. On ne peut pas sortir. On mange mal. On a on n'a jamais d'habits propres. Enfin, c'est l'enfermement horrible. Et plus on monte dans les quartiers, et les quartiers les plus élevés, on a des chambres individuelles. On a des habits propres tous les jours. On peut sortir en ville. On a une relation plus égale avec le personnel. Et en fait, ça passe à travers un système de faveurs assez incroyable, où en fait, on offre, comme si c'était une grande faveur, des choses que la personne recluse avait de manière totalement normale à l'extérieur. Donc par exemple, la nourriture de son choix, des vêtements propres, encore c'est ce que je disais. Et en fait, ça c'est des faveurs qui vont être vécues comme des faveurs assez immenses, et la sanction, c'est la suppression de cette faveur. Et en fait, c'est vraiment toute une logique aujourd'hui qu'on appellera d'humiliation. On humilie l'individu, on l'infantilise totalement pour lui faire accepter en fait son diagnostic, pour lui faire accepter une personnalité totalement différente qui n'est vécue qu'à travers le diagnostic, où la personne doit être malade, être au sens fort. Sa personnalité se réduit à sa maladie. Et ça, c'est quelque chose que Goffman, après, je vais faire un petit aparté, dans Stigmate notamment, il va montrer dans Stigmate, les personnes handicapées ont le même vécu, où en fait vont se réduire à leur handicap et vont passer leur vie à justifier la norme auprès des normaux. Et ça, c'est horrible. C'est mon jugement de valeur, mais où en fait, notamment à travers l'humour, en fait, les personnes handicapées vont être forcées de manière non vécue, enfin mais forcées quand même, à faire rire de leur handicap pour les personnes normales, pour que les personnes normales se sentent à l'aise.
Ce qu'on considère d'ailleurs comme une preuve de force.
Voilà.
Regarde, il rit de son handicap.
Voilà. Ou alors, les personnes handicapées vont être obligées de faire des exploits sportifs dingues. Une personne qui va être amputée des deux jambes va devoir
traverser la manche à la nage.
Voilà, ce genre de choses. Ouais. Et en fait, ça, c'est des choses qu'en fait, Asile, il permet, c'est la prémisse de Stigmate. Asile, ça permet à Goffman en fait d'étudier cette réécriture de la personnalité dans une bulle, parce que l'asile, c'est une bulle. Et après, dans Stigmate, on voit qu'en fait cette bulle, ces mécanismes-là, ils existent en dehors de la société, et que ça les rend tout aussi horribles. Et en fait, du coup, que même si l'asile a changé, les études de Goffman et les concepts qu'il met en place sont toujours valables.
Ouais, la logique, c'est la même.
Voilà, et ce que ça dit sur le soi, c'est extrêmement intéressant. Et notamment, moi je trouve que ce qui est vachement intéressant, c'est dans la deuxième partie du livre, c'est qu'il parle de toutes ces stratégies d'adaptation, de comment justement l'individu va essayer de faire survivre une espèce d'autonomie, une espèce de liberté, même dans des situations d'enfermement insoutenables. Il décrit à peu près 4 stratégies grandes lignes. Donc le repli sur soi, ce qui est assez évident à comprendre, c'est vraiment un refus d'être identifié à ce qu'on est devenu, un refus du diagnostic frontal. Généralement, ça se passe très mal. Généralement, là, on finit au quartier le plus bas, on a zéro faveur, et c'est pas la meilleure stratégie. Mais c'est la stratégie qui permet à l'individu de garder un soi, quoi. C'est un peu, voilà. Après, il y a la stratégie d'intransigeance, où vraiment c'est un refus d'obéir de manière visible. Et souvent, ça se passe avec une logique de remise en question du règlement, qui est assez intéressante, où c'est des personnes qui vont s'appuyer systématiquement sur le règlement écrit, pour montrer les contradictions qu'il y a dans l'institution. Parce qu'on en parlait la dernière fois, il y a des contradictions évidentes entre le but affiché, qui est le soin, et le but non affiché, qui est la séparation de la société des personnes non normales, et le renforcement de la norme. Et après, il y a un stratagème qui est un peu similaire, mais qui est plus dans l'acceptation. En fait, c'est ce qu'il appelle l'installation. En fait, où la personne va construire une existence assez stable, tout en essayant de tirer un maximum profit de l'institution, et du coup va montrer une certaine coopération avec le personnel, mais, par exemple, va adapter son comportement en fonction de la situation, et va quand même montrer des liens de solidarité avec les autres malades. Et après, il y a la stratégie d'acceptation totale, ce qu'il appelle la stratégie de conversion, donc c'est le malade parfait, où en fait l'opinion du malade se fond totalement avec l'opinion du personnel. Et là, c'est l'abandon total de soi pour l'acceptation de la réécriture totale, quoi. Et en fait, ce que Goffman dit, c'est qu'il construit ces 4 catégories, mais il dit que la majorité des malades, en fait, ils vont naviguer entre ces stratégies. Ils vont être opportunistes, en fait, mais c'est dans la société, voilà, c'est pour ça qu'il y a ce parallèle avec l'extérieur qui est intéressant, c'est qu'en fait on est tous opportunistes en fonction des situations sociales dans lesquelles on est, où en fait les malades vont adapter leur stratagème en fonction du contexte. Donc avec d'autres malades, ils vont être résistants, ils vont montrer leur solidarité, mais dès qu'il y a le personnel, bah, ils vont être beaucoup plus coopératifs, ils vont adhérer au discours. Et en fait, ça se passe, c'est vraiment il y a une tentative du reclus d'exploiter le système pour avoir accès à ses faveurs, qui en fait étaient des normalités banales. Et c'est vraiment, ça passe par une espèce de distanciation aux exigences de l'institution. Il y a une espèce de tentative de conserver un moi autonome, et ça passe par une vie clandestine. En fait, la construction de la vie clandestine, c'est Goffman, c'est une des grandes conclusions qu'il va tirer, c'est dans toute société, il y a une vie clandestine. Il y a une tension vers la liberté, quoi. Et toute l'exploitation des failles du système, c'est ce qui donne de la consistance à la vie. Et ça, c'est quelque chose qui va dire, vraiment, c'est ce qui va conclure, en fait, de comment, dans la société, on peut comprendre ce qu'il a étudié dans l'asile, c'est que on tend toujours à exploiter le système social dans lequel on est pour en tirer des faveurs, pour en fait, on tend toujours vers une autonomie du soi, tout en acceptant une réécriture du soi à travers notre catégorie sociale. Donc, pour conclure, en fait, il va dire que la personnalité, elle est façonnée par l'institution dans laquelle on évolue. Donc ça, c'est valable du coup à l'extérieur. Donc ça varie dans le cadre social. Donc, par exemple, au travail, on n'est pas le même soi que à la maison ou que au tennis ou au badminton. On est le contexte social dans lequel on est.
On n'est pas le même en voiture aussi.
Voilà. Ah, voilà. Au volant, on n'est pas du tout les mêmes. Et que l'institution totale spécifiquement, voilà, il va conclure un peu son étude spécifique, elle va changer la personnalité à travers du coup ce mouvement de mortification et de réécriture, de réinterprétation. Et là, je cite, « On découvre alors combien l'idée qu'on se fait de soi se trouve vite remise en question lorsqu'elle est brutalement privée de ses supports habituels. » Donc en fait, sans référence normale, en fait, sans les distinctions qu'on se donne à soi-même à l'extérieur, et ben en fait, on est privé de soi. En fait, vraiment, c'est ce que Goffman y va dire, c'est que on est, notre personnalité n'est que masque. C'est très, Sartre a un peu la même idée aussi. C'est vraiment, notre identité n'a pas de consistance, en fait. Notre être est un être social avant tout. Et notre personnalité, elle est impactée tout le temps par un système de relations sociales, par l'interaction. C'est pour ça que Goffman, il est lié à l'interactionnisme, c'est qu'il étudie ce masque, entre guillemets, cette façade, et bah, elle est en lien avec l'interaction sociale. Au sein de l'institution sociale, il y a un seul groupe d'appartenance, il y a une seule personnalité, alors qu'à l'extérieur, il y a une appartenance multiple, il y a plusieurs groupes, plusieurs rôles, plusieurs facettes, et il y a un réel malaise, et ça peut et aussi expliquer la pathologisation dans les asiles et dans les institutions totales. C'est qu'il y a un malaise quand ces rôles ils se superposent, quand dans l'asile, on est tout à la fois. On est ami, mais on est toujours malade. On est père, mais on est toujours malade. Et en fait, cette superposition, elle est assez insupportable. Et en fait, c'est vrai aussi dans la vie de tous les jours. On peut se retrouver assez mal à l'aise quand, par exemple, on se retrouve avec notre famille au boulot. Et que, alors que c'est des cadres sociaux différents, et que du coup, on est obligé de continuer de garder la face au travail, mais en même temps notre famille voit une autre personnalité, une autre personne en fait. Et ça, c'est des choses qu'on a pu tous avoir l'expérience, je pense. Et en fait, vraiment, ce qui montre, c'est qu'on est attaché à des éléments matériels de notre personnalité, donc à des vêtements, à une coupe de cheveux, et qu'en fait, ça, c'est des déterminants spécifiques de notre personnalité. Quand on met le costard pour aller au travail, et bah, on est plus la même personne. Quand on met notre pyjama, on n'est plus la même personne. Et en fait, ça, c'est des choses assez, assez exceptionnelles. Et du coup, juste pour finir, parce que je pense qu'on a, ouais, on a dépassé le temps, je vais citer Goffman sur la conclusion, pour un peu conclure sur cette idée de réécriture du moi dans les contextes sociaux. « Si nous ne nous rattachons à rien, nous n'avons pas de moi stable. Et pourtant, tout engagement et tout attachement inconditionnel envers une unité sociale quelconque entraîne une destruction du moi. La conscience que l'on prend d'être une personne peut résulter de l'appartenance à une unité sociale élargie, mais le sentiment du moi apparaît à travers les mille et une manières par lesquelles nous résistons à cet entraînement. Notre statut est étayé par les solides constructions du monde, alors que le sentiment de notre identité prend souvent racine dans ses failles.
Voilà. L'homme serait un animal social, quoi.
Nous sommes un animal social, mais nous attachons toujours à notre potentiel de liberté. C'est un peu ça.
C'est une superbe conclusion. Paul, merci beaucoup.
Et bien, merci à toi.
Et à la semaine prochaine dans Off de Ménage.